Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir,
bienvenue
dans Cour d'honneur.
Saison 4, épisode 17. Mais surtout le 60e épisode, toute saison confondue.
Ici, deux voix féminines.
Dans vos deux oreilles.
Ici, Chérine.
Ici, Swan. En pleine période de partiel, on enchaîne les nuits de révision et le stress à la BU blindée.
Mais Cours d'honneur est là pour vous servir. Ce n'est pas encore les vacances, mais on va faire semblant avec de la bonne musique.
Et des bons plans pour se la coller entre deux examens.
Et éviter de se ruiner avant la fête des mères. Dis-moi, Swan, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
Mais justement, Chérine, on y répond sur Cours d'honneur, un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Nous sommes le magazine d'infos et de culture avec toujours une pointe d'humour
qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus
depuis plus de 10 ans. Alors pendant une heure, nous vous promettons de parler de vacances.
Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre.
De musique également.
Je connais celle-là. Si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Assédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans.
Et de bons plans pas chers.
On n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Tu nous fais passer pour des clochards, la brune. Tu arrêtes de nous faire passer pour des clochards.
Voici nos provinces.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir. Bonsoir, Jade.
Bonsoir les filles, ce soir j'ai un invité assez spécial puisqu'on va parler en avance, mais il faut qu'on en parle du rallye des Sorbonnales qui arrive bientôt.
Yes. On dit aussi bonsoir à Ellie.
Bonsoir tout le monde. Alors vous m'excuserez, je suis un peu malade, mais pas aussi malade que la politique en France de nos jours, puisque moi je vais vous parler de la manifestation du 9 mai qui a eu lieu à Paris l'autre jour.
On a hâte d'entendre parler de ça, oui. Et on a Alice aussi qui est là ce soir. Hello.
Fille, alors aujourd'hui je vous ai concocté avec la chronique ou aller boire un coup pour vraiment pas cher à côté de la Sorbonne pour fêter la fin des partiels ou alors noyer son chagrin.
Voilà. Exactement.
Merci de nous régaler. Bonsoir aussi à Clara.
Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être ici et nous on va faire un petit voyage dans le temps pour une petite chronique pavée sur l'histoire de la Sorbonne avec notre cher cardinal de Richelieu qui est toujours là.
Et on fait aussi un coucou au fameux Elias qui n'est pas présent comme d'habitude mais qui pourtant travaille toujours.
Sans oublier évidemment notre réalisateur, le fameux, le célèbre, l'unique Thomas Schnell derrière la platine.
Oui, en plus j'ai de la chance, ils m'ont accordé dans mon stage d'observation le droit de faire une chronique aujourd'hui.
Ah. Oui, on te l'a accordé mais c'est exceptionnel. Faites donc comme chez vous, chers auditeurs. Alors installez-vous et prenez place du haut de l'amphi.
Dans votre chambre de bonne ou aux toilettes sur le palier.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Ce soir, on va parler de mémoire, ou plutôt de ceux qui la tordent, la maquillent, la bottent, la rasent de près et lui collent une croix celtique sur le front. Le 9 mai, Paris a vu défiler un étrange cortège, pas un carnaval, non, mais une manifestation néo-fasciste, bien réelle, bien sombre et bien tolérée. Accrochez vos ceintures et planquez vos neurones, voici un édito qu'Elie a fait piquer.
À Paris, ville lumière, capitale de l'amour, de la baguette chaude et des nostalgies rances apparemment, le 9 mai dernier, quelques centaines de patriotes ont en carton-pâte se sont réunis dans la capitale pour une manifestation néo-fasciste déguisée. Oui, parce que dans leur monde parallèle, on rend hommage à des collabos comme d'autres célèbres les résistants. Chacun son héros, hein. Derrière les bougies et les chants martiaux, c'était surtout un festival de drapeaux noirs, de slogans qui sentent bon les années 30 et de bras tendus à faire pâlir un ostéopathe. Ah, le bon vieux salut romain. Toujours à la mode chez ceux qui pensent que Mussolini était un incompris et que woke est une insulte plus grave que nazi. Ce genre de rassemblement, bien entendu, est toujours précédé d'un avertissement. Ce n'est pas une manifestation politique, c'est une commémoration. Bien sûr. et moi, je suis une tarte aux pommes. On ne fait que marcher en ligne droite, sous de noirs vêtus, avec des croix celtiques en criant « Europe, jeunesse, révolution ». Le tout avec la même passion qu'un télévangéliste sous amphétamine. Rien de politique là-dedans, c'est juste une réunion de passionnés d'histoire alternative. Les forces de l'ordre, elles, étaient là, bien présentes, peut-être pour vérifier que tout le monde avait bien ciré ses rangers. On imagine que certains agents ont dû se demander s'ils n'étaient pas accidentellement tombés sur un tournage de reconstitution historique de la chute, mais version TikTok. Pas d'interdiction, pas de dispersion, pas même un petit rappel à la loi. Il faut croire que certaines nostalgies passent mieux que d'autres dans l'espace public. Mais ne soyons pas cyniques. Il faut bien leur reconnaître un talent. Celui de ressusciter les fantômes qu'on croyait enterrés à jamais. Leurs idoles sont mortes, leurs idées aussi, mais eux continuent de trimballer comme des reliques sacrées. Un peu comme des fans de Johnny, mais en beaucoup plus sinistre. Alors que retenir de cette farce noire du 9 mai ? Que les néo-fascistes ont toujours le sens de la mise en scène, que l'État a parfois la mémoire sélective et que la bêtise, elle, est éternellement vivante. Et pendant qu'ils défilent pour célébrer des criminels, les vrais résistants dorment toujours sous des plaques oubliées, sans bruit, sans flambeau, sans uniforme. Eux, au moins, n'ont jamais eu besoin de slogans creux pour défendre l'idée la plus simple qui soit, la liberté. Alors quant aux autres, qu'ils continuent de marcher au pas, l'histoire, elle, ne les suit déjà plus.
Comme tu l'as dit en début d'émission, la politique française va mal, va très mal. Merci Élie, vous êtes toujours sur Radio Sorbonne.
Il est 18h06 sur Radio Campus Paris.
Dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Les vacances d'été approchent à grands pas, mais pour les étudiants qui cumulent études, boulot et pas beaucoup de dodo, est-ce la lumière au bout du tunnel ou le simple prolongement de l'enfer des partiels ? Lavinia est allée tendre son micro dans les couloirs de la Sorbonne pour soulever le dilemme de l'été. Les vacances, c'est fait pour partir ou pour bosser ?
Les vacances, c'est juste un prétexte pour aller à la BU, quoi. Mais dans l'idéal, ce serait pour se reposer, partir ou rentrer chez soi si on habite loin de Paris. Dans les faits, c'est plutôt travailler, étant donné que dans beaucoup de cursus, les partiels sont souvent après les vacances. Beaucoup de professeurs chargés de TD profitent des vacances, notamment pour donner des travaux supplémentaires. Ouais, en réalité, on bosse plus qu'on se repose.
Je pense que ça devrait être pour partir, parce que forcément, après des semaines de travail, tout le monde voudrait partir, se reposer, prendre du temps pour soi. Malheureusement, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, et beaucoup doivent travailler.
Je pense que ça peut être pas mal pour bosser, pour se faire de l'argent pour l'année qui arrive, mais c'est aussi une occasion de profiter pour partir, donc je pense qu'il faudrait faire les deux. Moi justement je vais faire les deux, je vais travailler avec mon père pendant les deux premiers mois, pendant juin et juillet, puis j'ai deux semaines de vacances où je vais partir en août.
C'est un peu difficile d'envisager des vacances sans études complètes. Malheureusement, surtout dans mon cursus, comme c'est un master, du coup sur les deux années on va produire quelque chose, donc même si je vais pouvoir partir un peu, je vais être un peu obligée aussi de préparer en amont l'année d'après.
Alors moi, depuis mes 18 ans, je travaille durant mon été. Mais c'est vrai que moi, j'aurais adoré pouvoir voyager, découvrir des horizons. C'est une occasion de pouvoir découvrir autre chose et faire un peu la coupure entre les cours et les vacances.
Un peu les deux. Il faut quand même un peu bosser pour trouver un travail étudiant, pour payer ses études l'année prochaine si on a besoin, ou payer un appart si on en a un et tout. Ou même juste se faire de l'argent comme ça. Mais quand même partir, je pense, au moins quelques semaines. C'est toujours bien, je trouve.
On a suffisamment de temps pour faire les deux, c'est-à-dire travailler un mois, deux mois même. Et avec l'argent généré pour travailler un mois ou deux mois, ça peut dégager de quoi partir. Après, ça dépend des situations personnelles de chacun. Et certains travaillent, je le sais, pour pouvoir vivre pendant l'année. Donc voilà, ça dépend des situations financières personnelles de chacun. Mais je pense que c'est possible de concilier les deux.
Moi, je suis plutôt travail. J'aimerais conserver mon appartement sur Paris. Mais pour ça, il faudrait que je trouve un emploi. Et c'est bien parti. Cette semaine, j'ai un entretien d'embauche pour un musée. Voilà.
Alors, vous partez ou vous bossez ici ?
Un peu des deux, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est plus forcément un choix qu'on peut avoir, mais la précarité étudiante est telle qu'on doit forcément trouver un travail. Donc, c'est un peu triste, alors que c'est censé être pour se reposer, mais justement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de choix. Enfin, moi, je sais que je travaille un peu, j'essaye de tallier les deux, mais c'est de plus en plus compliqué, donc...
Pour moi, les vacances, ça veut avant tout dire vacances scolaires, donc ça veut dire plus de cours, plus de périodes de cours. Ça veut pas forcément dire repos. Du coup, comme l'a dit Élie, malheureusement, il y a beaucoup de. On n'est pas tous au même niveau financièrement, on n'est pas tous aidés par les parents, on n'est pas tous au même niveau, même sur la bourse. Je sais que l'été, il n'y a pas la bourse, et quand c'est la seule chose qui t'aide à payer ton loyer, t'as un peu. J'allais dire. Non, un truc. vulgaire. On va pas partir sur du vulgaire, mais voilà, on n'est pas tous égaux. Après, c'est possible de concilier les deux. Et après, encore une fois, comment ? Genre, est-ce que c'est partir genre une semaine pour travailler genre les deux mois restants de l'été ? C'est compliqué.
Et là, du coup, on parle des vacances d'été. Je crois que dans le micro-trottoir, il y avait aussi des périodes de vacances du coup dans l'année. Moi, j'avoue que vacances dit je vais rattraper les cours que j'ai, le retard que j'ai accumulé, plus, comme l'a dit un des étudiants au début, faire les DM, commencer à essayer de réviser, ce que je n'arrive jamais à faire finalement, parce que j'ai à peine le temps en fait de récupérer les cours, et juste ça veut dire ne pas mettre de réveil une ou deux fois.
Aussi, toi, ouais. c'est de prendre de l'avance les vacances.
Ça devrait, ouais.
Mais, ça pas devrait, les
vacances,
ok.
Ouais, mais j'y arrive pas. Enfin, y a trop de trucs à faire. Et sinon, les vacances d'été, je suis d'accord, travailler. Enfin, souvent, en juin, j'essaie de trouver un stage. Mais du coup, hyper compliqué de trouver un stage en un mois. Surtout en sciences politiques, c'est bouché. Et après, sinon, partir. Il faut partir. Enfin, vraiment, juste un truc campagne, nature.
Ouais, mais ça, je pense qu'il faut les moyens, tu vois. Moi, je fais deux mois de saison complète, juillet, août, avec des horaires hyper élevés en restauration et tout. Impossible que je me cale ne serait-ce qu'une journée pour partir en campagne et tout. Mais par contre, j'ai fait le choix d'aller faire ma saison donc chez mes parents en bord de mer. Donc, c'est synonyme de vacances pour moi. C'est comme si j'étais partie comme une touriste, quoi. C'est juste que tu travailles. Donc, je pense qu'il faut réussir à concilier les deux. Mais pour ceux qui sont obligés de travailler, ça me paraît compliqué, ne serait-ce qu'un week-end, ça revient quand même à dépenser de l'argent. Quand tu dis que tu peux en gagner, c'est une période aussi où ça rime avec repos, mais aussi beaucoup avec gain d'argent, parce que c'est du temps libre qu'il faut bien utiliser, quoi.
C'est vrai que c'est bien de travailler l'été, parce qu'on en a besoin pour notre année, pour avoir un peu d'argent, surtout quand on est étudiant, mais je trouve que le plus compliqué, ça reste à trouver le job d'été, qui est hyper compliqué. Moi, j'ai eu la réponse seulement la semaine dernière, donc c'était vraiment le stress. J'avais envoyé plein de CV, etc. Parce que le problème, c'est que justement, quand on est en études, on veut travailler l'été, mais on peut pas garder le job sur l'année complète. Et beaucoup de personnes refusent notre candidature parce que ils sont pas intéressés pour des courtes périodes. Donc, outre la restauration, les bars, malheureusement, c'est très compliqué de trouver un job d'été. J'ai la chance de pouvoir concilier les deux parce que je pars lundi en vacances, mais c'est une chance encore une fois, et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent trouver un job d'été qui n'en trouvent pas, et en plus de ça ne peuvent pas partir en vacances avec leurs parents ou même avec des amis, et je me dis c'est assez triste, quoi.
Et tu vas faire quoi?
Je suis prise à la MAE, donc c'est une compagnie d'assurance. Donc c'est du 8h du 7h, mais j'ouvre les courriers, je réponds à des mails, etc. Voilà, de juillet et août. Mais voilà.
C'est vrai que le plus facile à trouver d'expérience, c'est en restauration, mais par contre, c'est vraiment mal payé, quoi.
Ouais.
Et c'est très fatigant pour le coup.
Et puis c'est fatigant, c'est pas des vacances.
Je te vois, mal payé, t'es pas d'accord?
Non.
Ça dépend où?
Ça dépend où tu vas.
Oui, ça dépend.
J'en ai
mais
fait pas mal dans Paris, souvent.
La
c'est
plupart, en fait, c'est que tu fais tellement d'horaires que tu as énormément d'heures sup, et en un mois, tu te fais assez de salaire pour deux mois, quoi. Mais c'est pour ça que là, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Jade. Pour moi, c'est pas difficile de se trouver. Franchement, je travaille depuis que j'ai 15 ans. Après, faut me faire marcher les contacts et tout ça. Mais tu peux largement trouver quoi travailler, même mineur, même les week-ends et pas seulement les saisons. Enfin, c'est juste, en fait, faut s'y prendre à l'avance et faut ne pas s'arrêter. Genre, c'est pas juste t'y vas un week-end et ça marche pas, du coup t'y vas plus. C'est pratiquement tous les jours, partout où tu passes, partout où tu peux, tu donnes des CV, et je sais pas.
Ouais, tu vois, j'en donnais énormément et je me suis pris vraiment beaucoup de réponses négatives.
C'est fou, mais tu cherchais dans quel...
J'ai demandé dans des McDo, en restauration, etc. Et je travaille en restauration, mais du coup à Rouen, mais du coup je voulais vraiment être sur Paris cet été, mais voilà.
Moi c'est pareil, je trouve que c'est quand même assez compliqué parce que moi ça fait depuis janvier, j'ai même changé mon CV trois fois pour essayer de modifier, améliorer quelques trucs, et pourtant enfin la plupart des réponses que j'ai eues, surtout que moi j'y vais, enfin je vais le donner en main propre, donc pour essayer d'avoir cet effet un peu dans le truc, mais la plupart du temps on me disait les saisonniers ça nous intéresse pas. Nous, on cherche des CDI ou à plein temps, et pourtant j'ai essayé dans la vente, j'ai essayé dans la restauration, et la plupart du temps c'était ce genre de réponse que je me prenais. Et c'est vrai que, comme tu disais, en fait j'ai l'impression que ça marche plus par piston, dans le sens où moi j'ai jamais travaillé hors que parce que mes parents m'avaient
m'avait donné l'opportunité d'avoir ce job, quoi.
Je sais pas où est-ce que vous êtes allé demander en restauration, mais ils cherchent de ouf. Hein.
Ouais, ils cherchent toujours.
Franchement.
C'est toujours. Après, je pense qu'il faut, en fait, faut pas trier. Faut, si vraiment tu veux trouver un taf, c'est qu'importe où c'est, qu'importe si t'as du temps de route et qu'importe si c'est McDo ou un resto sur les Champs-Élysées. Enfin, vraiment dans tous les cas, en fait, tant que t'es payé selon tes heures. Environ, souvent ça va entre 13 euros jusqu'à 15 euros, 16 euros brut de l'heure. Donc je trouve que c'est assez respectable.
Bah, tu me diras où tu travailles parce que moi j'ai pas réussi à décoller des 10 euros de l'heure malgré toutes mes expériences. Ouais. Par contre, j'ai trouvé dans ma rue. Donc ça c'est cool.
Oui, mais...
Je peux travailler, enfin réviser mes partiels et après hop, je fais le service et je rentre sans trop de temps de trajet. Okay. Mais je veux bien les plans.
venez travailler chez moi du coup. Ils recherchent pas en l'occurrence.
Par contre, je suis pas trop d'accord, c'est facile de travailler, tu dis même mineur.
Ah ouais, mais moi je bosse depuis très jeune. Hein. Oui, mais après, enfin, je bossais que les week-ends. Mais...
Parce que t'avais des contacts.
Même parce que ma sœur avait bossé là-bas à la base.
Oui,
mais
bah
sinon,
voilà. Dans quoi?
C'était un truc d'épicerie. Voilà, mais elle y avait bossé en saison. Et parce que voilà, c'est un contact, mais pas tant que ça, parce qu'elle, elle avait pas de contact, elle a quand même été prise.
Parce que moi, perso, j'ai pu travailler en restauration, mais bah, depuis, ça fait 3 ans maintenant que je travaille au même restaurant et c'est aux blagues du coup, mais enfin, c'est ok. Enfin, c'est pas ok. Mais.
Oups, si la retraite.
Mais je veux dire, j'ai. Parce qu'à chaque fois, je me prends vraiment des stops, quoi. Et voilà. Mais bon, cet été, je vous rassure, c'est.
Bon, maintenant, ça a assuré.
C'est ok.
Et c'est ok
cet été.
Bon, bah, tant mieux.
Juste, j'en profite pour dire, chaque trimestre commencé, je crois, ça te, je sais plus combien ça te donne sur ta retraite, mais je l'avais négligé au début en me disant, oh, c'est pas grave, ça me permet de travailler là.
Important.
Non, c'est important. Mmh. Bon, on sait pas ce que ça sera.
Tu les jeunes, ils ont 20 ans, ils pensent déjà à la retraite.
Mais bien sûr, attends.
Je sais pas si ça sera tout.
Si on peut éviter de la prendre à 70 ans.
Il faut traverser la rue, l'a dit le président, ça suffit.
Ouais, on reprend pas les maudits prix.
Puis on sait pas ce que ce sera dans 40 ans, 50 ans, on sait pas
ça,
si ça aura changé.
D'ici là, ils vont dire hop, vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans, vous travaillez jusqu'à 80 ans.
Ouais. Mais si, on va y arriver. Allez.
Faut qu'on prévoit. 20 ans, on est déjà fatigué. Donc
Non, on est là. Voilà.
Bon, bah sur ce, personne n'a envie de pleurer sur le travail que vous n'arrivez pas à trouver.
Les vacances, c'était les vacances.
Oui, mais les vacances sont faites pour se reposer, mais...
Ah, le stage que j'arrive pas à trouver.
L'argent est fait pour être dépensé.
Mais donc, c'est constaté que le boulot prend vachement plus de place que les vacances.
Bah ouais, c'est ça. Oui. Mais rendez-vous compte quand même qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de saison de leur vie. Moi, j'ai appris ça en arrivant à Paris, et j'ai trouvé ça choquant.
En même temps,
de n'avoir jamais travaillé sa vie. Enfin, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais juste, c'est fou, quoi. Non, mais enfin, ça me paraît dingue. Voilà, je sais plus du tout où est-ce qu'on est rendu.
Tout de suite sur Cours d'honneur, on vous emmène en voyage entre groove, rétro et sensualité électro. Voici Dante Samarie Lou, un titre signé L'Impératrice.
Le feu au-dedans, t'es comme un volcan, ton porte tout le temps, tu bouges. Dans un malilou,
bien.
Merci l'impératrice pour ce morceau estival solaire qui donne envie de se la couler douce sur la Costa Brava.
Et d'ailleurs, Cour d'honneur aura la chance de croiser le chemin de ce groupe mythique. On baladera notre micro au festival Solidays le 29 juin. Alors, chers auditeurs, restez branchés pour vivre avec nous ce rendez-vous musical incontournable. Restez aussi ici avec nous, la musique ne s'arrête pas. Tout de suite, nous recevons notre invité, le musicien Samuel Rosenbaum.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Place à Jade, notre intervieweuse qui reçoit ce soir Samuel Rosenbaum, l'un des organisateurs du Rallye des Sorbonnales 2025, un événement festif à ne pas manquer pour démarrer l'année en beauté.
Exactement, c'est la tradition de rentrée à ne pas manquer. Le Rallye des Sorbonnales revient le vendredi 4 octobre 2025 pour sa 17e édition. Organisé par la faculté des lettres de Sorbonne Université, cet événement festif rassemble chaque année des centaines d'étudiants pour démarrer l'année du bon pied, faire des rencontres et bien sûr s'amuser. Après une édition intergalactique en 2024, on change totalement d'univers et ça on va en parler avec Samuel Rosenbaum. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir. Donc, tu es musicien, photographe, mais aussi concepteur du rallye depuis maintenant 17 ans. Bonjour Samuel.
Bonsoir.
Pour commencer, quel est ton rôle dans ce projet exactement ?
Mon rôle initialement, la toute première année, donc il y a 18 ans, c'était d'être régisseur de la soirée. À l'époque, il y avait et le rallye en journée et la soirée. Et en fait, la deuxième année, on m'a demandé si je voulais bien filer un coup de main de nouveau. À l'époque, c'était bénévole. J'ai dit, moi, en fait, ce qui me plairait, c'est d'écrire les jeux. Je trouvais ça super marrant. J'avais jamais fait ça, mais c'est ce que je voulais faire. Et en fait, c'est Yann Migoubert qui tenait le projet à l'époque au service culturel. Et donc, depuis la deuxième année, j'écris l'intégralité des jeux du rallye en essayant d'intégrer un maximum d'associations étudiantes. Mais mon rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence, que ça tienne la route avec l'état d'esprit qu'on souhaite et que le jour J, les participants s'amusent.
Très bien. Est-ce qu'il y a un jeu en particulier qui t'a marqué, une année en tout cas, avec lequel tu as eu du plus de plaisir à...
Alors, pour moi, la très bonne idée, je ne sais plus quelle année c'est, mais on l'a fait plusieurs fois, c'était peut-être il y a une dizaine d'années, c'est une asso qui l'a proposé, c'est Télé-Sorbonne qui a proposé un Fort Boyard. Et j'avais des gros doutes techniquement parlant de comment il ferait et comment ça rendrait. Donc en fait, il y avait une personne qui avait une GoPro, c'était le tout début des GoPro, il y a une personne qui avait une GoPro et qui avait les yeux bandés, GoPro sur le torse. Et en fait, elle rentrait dans une pièce où on avait mis du bazar, il y avait des choses à trouver. Et le reste de l'équipe était de l'autre côté de la porte et criait pour dire où est-ce qu'il devait se diriger ou qu'est-ce qu'il devait prendre. Et en fait, c'est une des épreuves qui a le plus marché et qui a vraiment plu. Et on l'a refait plusieurs fois. C'était une très bonne surprise.
Et je crois que c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Du coup, en réunion, on aimerait bien refaire un petit peu ce genre de choses cette
j'aimerais
année.
J'aimerais bien, oui. Ça serait chouette si on faisait un truc comme ça.
Mais avec un nouveau thème, parce qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, cette année, c'est royal, un peu le thème. Hein. C'est,
absolument.
Cour du Roi Soleil.
À la Cour du Roi Soleil,
oui. À la Cour du Roi Soleil.
On va être à Versailles.
Exactement. Donc, on va chercher du coup la couronne du roi. C'est bien ça ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce thème-là ? Comment il a été voté et surtout...
quels sont les enjeux autour de ce thème ?
Alors, ce qu'on essaye, déjà, tous les ans, on essaye de faire en sorte d'impliquer ceux qui vont devoir tenir les stands, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un jeu qui touche entre 200 et 400 étudiants, surtout primo-arrivants, et l'idée, c'est qu'ils découvrent les lieux, mais aussi les personnes. Donc, plus on implique des associations et des gens qui travaillent en Sorbonne, plus ça fait des contacts potentiels. Moi, je suis à la base super timide, j'aime pas aller vers l'autre, et du coup, j'aime bien l'idée de créer quelque chose qui permet à des gens qui sont comme moi, j'ai pu être, d'avoir une facilité à créer des contacts dans ces... Ça fait quoi ? Ça fait un mois à ce moment-là que vous êtes rentré en cours, donc au début d'un cursus. Et donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que plus les personnes qui vont tenir les stands, parce que ça nécessite à peu près 70 standistes de faire ce jeu, ce qui est quand même beaucoup de monde sur une journée, donc plus les standistes seront investis et croiront au jeu et croiront à la thématique globale et au jeu qu'ils vont défendre eux-mêmes, plus les étudiants en face vont s'amuser. Pour moi, ça va ensemble. Et donc, le fait de demander aux assos étudiantes et aux personnes qui vont être standistes de voter elles-mêmes pour le jeu et de même proposer les thématiques, de voter pour le thème, pardon, c'est d'après moi ce qui fait que ça peut être vraiment super à la fin et qu'ils soient plus investis. Donc, en fait, tous les ans, on fait un vote avec tous ceux qui veulent être là. On a 5 minutes pour dire tous les thèmes qui nous passent par la tête, et des fois il y a des trucs totalement ubuesques, et une fois qu'on a ces votes là, une fois qu'on a ces propositions, on vote tous, on a tous le droit de voter pour 3 thèmes, et les thèmes qui ressortent le plus, on en garde 3 pour faire valider quand même à la vie étudiante et compagnie, mais en général c'est un de ces 3 thèmes, voire des fois un mix entre 2 thèmes qui va devenir le thème de l'année.
Merci. Alors, comment ça va se traduire sur le terrain, ce thème cette année ? Des déguisements, peut-être ? Des décorations particulières ?
Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais ce matin, on a eu un rendez-vous justement avec l'association Molière, qui fait des... Je crois que c'est un chercheur à la base qui s'est pris, un chercheur canadien, québécois, qui s'est pris de passion pour Molière et pour la façon que les pièces de théâtre avaient d'être jouées dans leur langue d'origine, donc avec du français de l'époque de Molière. Et en fait, ils font des représentations comme ça, costumées, mais genre pas les costumes qu'on prend en soirée, quoi, les costumes genre trucs un peu waouh, quoi, t'es plus proche du film que de la soirée entre nous. Et en fait, ils ont accepté de participer. Donc là, on est en train de voir dans quel cadre, mais il y a de fortes chances que ce soit eux qui fassent l'intro et peut-être la conclusion du jeu, peut-être qu'ils animent un jeu, et on va tâcher de faire en sorte que tous les standistes soient accessoirisés pour que bah justement on soit le plus possible plongé dans l'univers, mais voilà, ce que j'ai toujours pas fini d'écrire le jeu cette année, je me laisse encore des options, et donc je peux même pas te dire exactement ce qu'on va faire vu que je ne le sais pas, mais voilà, l'idée c'est de garder les jeux qu'on aime bien faire, d'en rajouter des nouveaux qui ont été proposés. Il y a des assos dont vous qui avez proposé des jeux cette année, donc on va intégrer des nouvelles personnes, des nouvelles équipes, des nouveaux jeux, et l'idée c'est de faire en sorte que sur ces 2 heures un peu denses plus le temps qu'on a après, de faire le jeu le plus excitant possible pour les étudiants qui vont arriver, et qu'à la fin, moi, mon envie c'est qu'en partant de ce truc là à la fin, il y ait des primo-arrivants qui étaient timides, encore une fois, comme moi j'ai pu l'être, et qui repartent avec un premier groupe de potes qui va faire que l'année va être moins compliquée que ce qu'elle aurait pu être s'ils n'avaient pas fait ces rencontres là
et c'est génial justement, parce que c'est vrai que beaucoup d'étudiants arrivent à Paris, à la Sorbonne, et connaissent personne. Est-ce qu'il faut des groupes pour participer au jeu ?
Il ne faut pas forcément des groupes pour participer au jeu, mais on peut venir en groupe. En fait, ça, pareil, en termes d'organisation pure, année après année, on fait en sorte d'améliorer ce qu'on fait, et on a remarqué que les premières années où on crée les groupes, en fait, soit par UFR, soit par arrivée d'inscription, on a réalisé qu'on avait toujours des gens qui arrivaient et qui disaient « Ah mais moi j'aimerais être avec machin et bidule », et nous c'était compliqué en termes d'organisation, et du coup on refusait. Et en fait on se disait « Mais c'est un peu con, parce qu'on fait quelque chose pour eux et on les empêche d'être avec les gens avec qui ils ont envie d'être », donc en fait c'est un peu antinomique comme façon de procéder. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on ne prépare pas les équipes à l'avance. Quand les gens arrivent, on leur demande s'ils sont déjà en équipe ou pas. S'ils sont en équipe et que les autres ne sont pas arrivés, on les fait attendre. Et en fait, je dispatche, c'est moi-même qui dispatche au fur et à mesure dans la cour d'honneur quand les gens arrivent, pour être sûr que toute personne qui a envie d'être avec certains copains puisse l'être. Et toutes les personnes qui ne sont avec personne seront dans une équipe, donc se feront potentiellement des potes le jour J.
Super. Et du coup, c'est vrai que les rallyes
Des Sorbonnes, le but du jeu, c'est ça, c'est d'être sur plusieurs campus à la fois, un peu partout dans Paris, c'est ça, pour permettre de découvrir la ville aussi à ceux qui ne la connaissaient pas.
Alors ça, on l'a fait certaines années, on le fait moins. Cette année, on va être géographiquement, un peu comme l'année dernière, plus recentré sur le quartier latin. Le jeu commence en Sorbonne-Mer ici, et il y a quelques épreuves à l'île aux Champollions en face, où vous avez la vie étudiante, parce que l'intérêt, c'est aussi de découvrir les lieux où ces primo-arrivants devront aller dans l'année, les endroits qu'ils peuvent identifier, les services dont ils peuvent avoir besoin, et on fait la deuxième partie et il y aura un concert et un petit semblant de soirée du côté de j'ai oublié le nom, des Cordeliers, voilà, qui sera aussi un peu dans le thème, même si on est plus côté révolution de cette époque là mais on sera quand même proche du thème, quoi.
Sympa le rapprochement. Alors, dernière petite question qu'on pose à tous nos invités: que représente la Sorbonne pour toi exactement?
La Sorbonne, pour moi, ça représente un truc un peu de luxe, ça représente un truc un peu waouh, et d'autant plus pour moi, en fait, je m'estime très chanceux parce que je n'ai pas fait mes études ici. Alors déjà, je suis pas un très bon élève, j'ai passé 3 fois le bac, ça te montre mon degré de d'assiduité à l'école. Ma fac, j'ai fait 2 fois ma première année, et en fait, je travaillais déjà à côté, et j'ai pas persévéré, j'ai commencé à bosser directement. Et le fait de m'être mis à travailler, donc je suis un prestataire aujourd'hui pour la Sorbonne, mais je connais très bien, ça fait 18 ans que tous les ans c'est moi qui intervient sur ces trucs là et les années d'avant pareil, je suis venu un peu à l'époque où je manageais un artiste qui était d'ici, qui faisait ses études ici, donc le service culturel lui prêtait l'amphi Richelieu pour faire des concerts, donc c'est comme ça en fait que je me suis fait ce contact et que finalement c'est devenu autre chose, et donc quand je viens ici, moi j'adore marcher dans les couloirs et je me dis putain, j'ai la chance de voir ce truc là tout à l'heure j'entendais parler du cardinal Richelieu, j'ai eu la chance une fois, alors qu'on n'a pas le droit, on m'a fait rentrer dans la chapelle. Donc wow. Tu te dis, t'as accès à des trucs et tu vois des trucs que tu vois pas sinon, et c'est un peu waouh, quoi. Je sais pas les étudiants qui sont ici à quel point, une fois qu'ils y sont depuis un bout de temps, continuent de réaliser la chance qu'ils ont d'étudier dans ce cadre-là. Oui, il y a plein de défauts parce que c'est des vieux immeubles, mais voilà, je préfère 1000 fois ça que d'être dans des grandes tours sans âme. Enfin voilà, vous êtes dans un lieu un peu magique quand même.
En effet, je ne sais pas si on se rend compte, mais on est dans un très bel établissement. Plein d'histoires et...
Et assez fou.
Et assez fou, exactement. Merci beaucoup Samuel pour cet échange. Clair et inspirant, on sent toute la passion qui anime sur Ali et ça promet vraiment une rentrée mémorable cette année. On va attendre le 4 octobre avec impatience et sûrement un peu de stress. En attendant le jour J, on aura sûrement la chance de te revoir lors de notre marathon dans quelques jours.
Avec plaisir.
Cette fois, ce sera pour parler de tes passions, notamment la musique, car c'est un vrai artiste, en effet, qu'on reçoit aujourd'hui, que nous avons eu la chance de rencontrer. À très vite, Samuel, merci beaucoup.
À très vite, merci à toutes.
Bien, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. On continue de parler de musique sur Cours d'honneur avec une chanson mi-compliment, mi-critique. Beaucoup se reconnaissent dans les paroles, c'est Julia d'Alusha Schneider.
Moi, je te préférais avant. T'es peut-être moins parfaite, mais justement, t'étais pleine de doutes, t'avais pas d'argent, t'en avais rien à foutre, c'était pas important. Oh Julia, moi, je te préférais avant. Julia, t'as réussi ta vie. Mais moi, je te préférais avant. T'étais peut-être moins parfaite, mais justement. Maintenant tu t'embourgeoises dans ton appartement. Est-ce que t'es fière de toi? T'as fait comme tes parents. Ouais, Julia, moi, je te préférais avant. Reflet dans un miroir, couvert de poudre blanche. Tu fuis ton propre regard, un sentiment étrange. Comme si quelque part, notre vie t'attend. Comme si quelque part, tu mourrais tranquillement. Julia, t'as réussi ta vie. T'as réussi.
Il a ramené un sentiment de nostalgie dans les studios de Cours d'honneur. Alyosha Schneider pense au passé. Nous, on pense à l'avenir. On pense au 29 juin précisément, où on aura l'occasion d'assister au concert du fameux Schneider, au Solidays. Restez donc sur nos ondes pour vivre ce moment avec nous. Pour l'heure, pensons au présent, pensons bon plan. Tout de suite, la chronique des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table!
Dis-moi, Swan, comment se sont passés tes partiels? Parce que je t'ai entendu te plaindre à maintes reprises. Et dis-nous, comment ça se passe?
Ben meuf, écoute, partiel fini, je suis déjà en vacances. J'ai envie de chanter, de danser H24. Ah, de boire surtout.
Oui, oui, oui. Une petite bière là en terrasse.
Mais grave. Ou alors une bonne pina colada là, bien fraîche et tout là. Mama, le rêve. Mais bon, si seulement j'étais pas fauchée.
Hop, pas de panique. La débrouille a plus d'une adresse dans son sac. Laissez-moi vous les adresser sans maladresse. Je ne vous garantis pas la science infuse de Thomas concernant les meilleurs lieux de beuverie, mais je crois avoir déniché quelques pépites proches de la Sorbonne ou s'y ruer, ici ruiné à petit prix en sortant du partiel ou juste avant, on juge pas. Alors j'annonce, je prononce, j'énonce la question que tous et tous toutes et tous se posent, mais où se bourrer la gueule haut en couleur en fin de mois à côté de la Sorbonne. Petit 1, le pantalon. Ah, le pantalon. Thomas le connaît bien. Un Thomas, et on n'a pas manqué de nous le faire découvrir à l'équipe de cours d'honneur, car au pantalon, on ne se serre pas la ceinture. Petit bar atypique, presque comme une grotte, le repère des connaisseurs. Pas de cocktail, mais un Ricard simple à 3 euros, double à 5.
Yes,
un
Kir
à 3 euros, 5, double à 6. Les demi de bière vont de 2,5 à 5 euros et les pintes de 4,5 à 8 euros hors happy hour. Et pour l'happy hour, eh bien, c'est tout simplement la fête. 4 euros le double kir, 4 euros aussi pour le double Ricard et 3 à 6 euros pour les pintes. On enchaîne tout de suite avec le Mélocoton, une ambiance rock et du savoir-faire. Perso, j'y suis allée en marchant droit et je suis sortie en crise de foi. Non, j'abuse, mais leurs cocktails sont plus chargés que ta meuf. À 7,5 euros hors happy hour et 5,5 euros en happy hour. J'ai goûté le Bloody Mary qui est fameux. Les bières aussi sont à prix cassé avec une pinte à 3,9 euros en happy hour. Ensuite, le Nouvel Institut. Cette brasserie à l'ambiance classique, voire banale, a de quoi réconforter les scientifiques de Jussieu. Ils guilteront avec joie leur solution alcoolique pour se plonger dans leur pinte d'alcoolique. Pinte de bière de 3,5 à 7 euros et des litrons de 6,50 euros à 14 euros. Sans oublier les cocktails de 5 à 8 euros, les apéritifs à bas prix comme un pastis à 2,50 euros et bien d'autres encore. Il y en a pour tous les goûts et les porte-monnaies. Quatrième trouvaille, j'ai pêché un gros poisson, le requin chagrin. Peint de 4 à 5,5 euros en happy hour, planteur à 4 euros et une sélection d'une dizaine de cocktails à 6 euros en happy hour. Le lieu parfait pour les mélancoliques qui souhaitent noyer leur chagrin en eau trouble, puisque l'alcool c'est de l'eau. On finit avec le Baloulou, petit bar à deux pas de la place de la Contrescarpe avec sa déco colorée. Mais je suppose que vous ne viendrez pas pour la déco, mais plutôt pour ses pintes de 3,5 à 7,5 euros, sa petite vingtaine de cocktails à 5 euros et une dizaine d'autres à 8 euros, ainsi que pour ses verres de vin à 3,5 euros et son maître de shot à 10 euros. Bah loulou, t'attends quoi pour y aller? Voilà mes chers débauchés, de quoi confectionner un chouette petit parcours de marathon, et j'espère que toi, ce soir, avec les magouilles d'Alice, t'as trouvé ton bar. Et n'oubliez pas, buvez avec modération. Flash info, l'alcool, c'est pas vraiment de l'eau.
Merci Alice, tu m'as donné l'eau à la bouche. Et je pense que tous ces bars vont nous être très utiles pour le marathon parce qu'on a une émission qui donne justement l'eau à la bouche.
Exactement.
Pour l'heure, on se demande, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
C'est boire, et non. C'est la question à laquelle on répond sur Cours d'honneur.
Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, la radio étudiante qui fait le tour de la fac et de ses campus. Et ce soir, Radio Sorbonne fait le tour de son prochain bureau. Wouhou.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Alors
À l'heure où naît un nouveau bureau de Radio Sorbonne, c'est fait. Une nouvelle équipe vient d'être nommée au sein de l'organe exécutif de RSU. Trois nouvelles femmes pour incarner la radio, trois girl boss pour impulser un nouvel élan, trois visages qui viennent compléter la galerie des portraits des responsables de Radio Sorbonne.
Ah oui, je les revois encore franchir pour la première fois à la porte du studio. Je revois leur mine ébahie quand elles posent le regard pour la première fois sur la console, les micros, les casques. Elles se sentent pour la première fois appartenir à la grande histoire avec un grand H. Elle, c'est Swan, jeune femme singulière, bardée d'accessoires et de bijoux en tout genre. Et derrière la fashionista en herbe se dissimule une envie folle d'apprendre. Elle, dont un dessin ferme emplit l'âme, alors, eh bien, elle s'assoit, elle prend le micro, et là, c'est le drame.
Salut Thomas, salut les filles, salut à vous. Moi, je vais vous parler des super podcasts à écouter, ainsi que notre grand personnage de la Sorbonne ce soir.
C'était la première fois qu'elle parlait en direct à la radio. Et déjà, croyez-moi, Swan, elle annonçait la couleur. Hein.
Parce qu'à cette table, on sait bien que la procrastination nous frappe dès la rentrée, même si on s'était promis de ficher nos cours le jour même ou de rendre les chroniques 48 heures avant.
Ok, super, voilà qui promet pour une première en radio. Mais le grand drame de Swan avant tout, eh bien, c'est qu'elle se sentait bien seule. Hello darkness, my old friend. Sensible, enjouée, curieuse, impressionnée, oui, mais elle espérait une camarade de jeu. Il y avait bien Chirine qui était à sa hauteur, mais Chirine aspirait déjà à voguer vers d'autres contrées, les lointaines prairies vertes du journalisme où l'herbe est toujours plus verte que notre studio. Et c'est là qu'entre notre nouvelle égérie de Radio Sorbonne. Voilà que débarque une jeune femme brune, le cheveu lissé, les pommettes rondes, le regard amusé, intimidé aussi, mais derrière une bouche fine se cachait l'une des figures grandes voix de Radio Sorbonne. Enfin, il fallait encore prendre un peu d'assurance.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Aujourd'hui, pour la carte postale, je vous emmène faire un tour dans la cafétéria Francis de Croisset sur le campus de Clignancourt.
Lavinia et sa voix qui devaient bouleverser le monde prit place à côté de Swan et de Chéri. Nul besoin de sermonner cette princesse à la voix miel de ronce pour l'amener à nous conquérir du seul souffle de son timbre. Plus qu'une chroniqueuse, non, c'est là le falsetto de Dieu qui s'était fait femme.
Michel Foucault, durant l'un de ses derniers cours tenus en 1984, il aurait voulu se débarrasser de son auditoire, serait-ce par aspiration à la solitude, ou tout simplement à cause de tendances sérieusement misanthropes.
Et là, elle va retrouver ses nouvelles camarades. Foucault, la solitude, la réflexion, la philosophie, tout était là dans la tête de Lavinia. Et la grande teuf pouvait à ce moment-là commencer. Oui, et bien parce qu'ensemble, toutes les trois, elles étaient prêtes à faire vibrer Radio Sorbonne. Oui, mais il manquait encore la pièce maîtresse pour compléter notre sainte trinité, une autre égérie qui donnerait tout l'équilibre à ce triumvirat. Et là, eh bien là, on a droit à une véritable vedette. À peine 10 épisodes après le premier épisode de Sorbonne en personne de Lavinia, voici que débarque Jade et toute sa fougue. Elle était là avec nous, elle était prête à prendre le micro. Jade est arrivée avec son air d'avoir 18 ans, qu'elle l'a sans doute probablement d'ailleurs, puisqu'elle est en L1. Elle pourra ainsi faire toutes ses années post-bac à RSU. Elle a certes encore ses rondeurs d'un visage poupon, mais derrière se cachent les traits d'une voix qu'il nous fallait.
Bonsoir, enchantée. Je vous ai préparé du coup une chronique du bruit sur le cinéma. Sur un petit peu, qu'en étudiant, comment on peut payer un peu moins cher le cinéma, les bons plans qu'on peut trouver à Paris.
Et croyez-moi, malgré son jeune âge, elle ne s'en laissera pas compter. Quand je l'ai recrutée au café, elle commandait certes du chocolat chaud, oui, mais derrière le micro, elle n'a pas cherché à se dissimuler, oui. C'est une vraie snob qui ne jure que par Wong Kar-wai.
On commence rue Champollion, en plein cœur du quartier latin, là où se cache la Filmothèque. Ce cinéma indépendant propose des séances à 5 euros pour les moins de 26 ans. Donc si comme moi vous êtes fan de Wong Kar-wai, sachez qu'il est à l'affiche une bonne partie de l'année. Plus d'excuses pour découvrir ce maître du cinéma.
Voilà, croyez-moi, cette nouvelle équipe exécutive de Radio Sorbonne à qui on souhaite une longue vie. Vous êtes les nouvelles figures de proue d'un navire qui porte avec lui les rêves de centaines d'étudiants. Avant vous alors, une nouvelle vie commence à Bemous Radio. Soyez fiers de votre élection, prenez du plaisir à faire ce que vous faites, vivez intensément, tentez un jour de vous approcher, de votre guide, celui qui du haut de son Olympe vous tendra la main pour inventer ensemble le langage de notre radio. Oui, mais n'oubliez pas que ceux qui viennent au monde pour ne rien changer ne méritent ni égard, ni patience. Alors brisez les règles, soyez fous, soyez même fous même. Et puis avant tout, Radio Sorbonne, n'oubliez pas que c'est une grande histoire d'amour.
Merci Thomas, merci, tu nous as ramené un peu de nostalgie, un peu d'amour et surtout beaucoup, beaucoup d'avenir
oui,
pour nos trois camarades, Swan, Jade et Lavinia qui n'est pas là, mais on pense à elle. Absolument. Parlons maintenant d'un morceau qui respire la jeunesse, lui aussi, La Liberté, un morceau en français et en coréen, bref, une musique qui respire l'été, tout de suite la belle voix de Mickey sur Cour d'honneur avec son titre Scorpion, ascendant Scorpion.
Un, deux, mon quart de siècle, j'ai mon corps, les pick-up. Maman, je m'en fous qu'on me trouve typé sans make-up. Je vois plus la fille du miroir qui saute sa botte, pressant son dard contre la capote. On carte encore parfois dans les boîtes night. J'avoue au fond c'est pas si mal d'être asiate. Mais j'avais honte d'être moi, à m'entendre les cheveux, cachant mes yeux sous des lentilles bleues. Aime-moi la vie que je veux. D'ailleurs si tu es un homme d'air. D'ailleurs si tu es un homme d'air. Un jour j'ai pris des champignons avec ma mère. Moi j'étais fly et elle a bégère. Je sais pas ce que je cherchais ce jour-là, mais j'ai compris qu'on se tapait même délire. Elle et moi, foncez ou pas. Aime-moi la vie que je veux. D'ailleurs si tu es un homme d'air. D'ailleurs si tu es un homme d'air. Compte pas sur moi si tu veux bitcher sur ta meilleure pote. Si je veux cracher c'est pas derrière une porte. Je veux plus de piment dans ces noodles. J'ai l'air blasé mais je suis fou d'elle. Pas de panique si je me fous moi mon intrigue. Je vais pas cliquer sur ton dick pic mec. À part si c'est artistique. Mais c'était pas artistique. Aime-moi la vie que je veux. Aime-moi les erreurs boréales.
C'était Scorpion, ascendant Scorpion de Mickey, fraîcheur franco-coréenne qu'on retrouvera sur les scènes au Solidays en juin. Et devinez quoi, CDH y sera aussi. Mais en attendant les festivals et les good vibes, retour à la vraie vie d'étudiant.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Ils boudent parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon, quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Il a vous a concocté un petit guide. Pas
et
encore.
On passe, non, on passe avant à la chronique pavée. On commence à en savoir des choses hein, sur notre chère Sorbonne. Oui, mais ne vous en faites pas. Il reste encore beaucoup à découvrir avec l'arrivée de la chaleur torride de l'été. Clara nous propose un petit tour au frais dans la chapelle de la Sorbonne pour une anecdote qui pourrait donner la chair de poule.
Approchez. N'ayez pas peur. Et...
Vas-y, continue, t'inquiète pas.
Approchez toujours. Vous avez peur des cadavres ? Bon, ça tombe bien. Sans mauvais jeu de mots, celui-là, il a juste sa tête. De qui je parle ? Du pragmatique ministre de Louis XIII. De celui qui a construit l'absolutisme du pouvoir de Louis XIV. Bah, d'Armand Jean Duplessis, quoi. Le cardinal duc de Richelieu, alias le squatteur de la Sorbonne. Et oui, ça fait presque 4 siècles qu'il repose dans la chapelle Sainte-Ursule. Ce chef-d'œuvre baroque fut au passage le premier monument d'importance à coupole dans la capitale puisque le Panthéon a été construit qu'en 1744, lorsque Louis XV, c'était après, fut miraculeusement guéri. Oui, mais pourquoi il est là, le Richelieu ? Eh bien, je vous signale quand même que c'est grâce, ou à cause de lui, qu'on va à la Sorbonne, encore aujourd'hui. Et oui, en 1626, le collège de théologie tombe en ruine, par négligence financière. Dans le contexte des guerres de religion et du gallicanisme, le bastion du catholicisme bat de l'aile. Et c'est Richelieu qui fait reconstruire la casa, la Sorbonne, avec ses sous-sous perso en plus. Bon, faut dire qu'il était plutôt blindé, car en tant que cardinal et abbé, il recevait les dîmes, les rentes et tutti quanti. Et puis, Richelieu était le proviseur de la Sorbonne depuis 1622, après y avoir été élève. Eh oui, le mec, il dirigeait la France et une fac. Aujourd'hui, l'un ou l'autre, c'est déjà compliqué. Mais bref, le mec a en fait passé sa vie ici, donc il a décidé que pour sa mort, bah, ce serait pareil. Mais attention, hein, on parle pas d'une tombe lambda, il s'agit d'un mausolée. Une grosse structure imposante, genre j'étais puissant, j'étais intelligent, j'ai inventé l'état centralisé, alors s'il te plaît, marche doucement sur mes dalles en marbre. Le truc est tellement grand que, soyons honnêtes, à côté les tombes, le Panthéon, c'est du Airbnb. Il s'agit en fait d'une vasque en marbre blanc avec une sculpture de Richelieu soutenue par l'allégorie de la religion et celle de la science qui pleure à ses pieds. Rien que ça. Et il y a aussi son vrai chapeau qui lévite au-dessus. Ambiance Poudlard, le chapeau. T'as la ref. Ouais. Mais ce beau petit monde s'est fait bien secouer pendant la Révolution, au sens littéral du terme. En 1793, les révolutionnaires ont ouvert sa tombe. Coupez la tête, qu'ils ont dit. Oui, oui. Ils ont décapité un mort. On aime la cohérence. Résultat, sa tête, a disparu. Longtemps. Comme si elle était partie en Erasmus, quoi. Commence alors le jeu de piste. Un bottier ou un épicier, rue de la Harpe, l'aurait emportée puis offerte à l'abbé Bonchamp, qui la lègue à un autre abbé, etc. Et un pharmacien lui applique un traitement anti-insectes qui lui donne un joli teint cuivré. Avant de la rendre à la Sorbonne, en 1866, on lui donna des funérailles en due et bonne forme, bonne et due forme, les deux. Si vous voulez en savoir plus, on a un petit roman trépidant sur cette histoire qui s'appelle Histoire d'os et autres illustres abbatis. Bon, j'espère que cette visite patrimoniale pleine de mystères, de poussière et de Sorbonne vous a plu. Et la prochaine fois que vous venez à la fac, levez les yeux vers la chapelle, souvenez-vous. Le cardinal est toujours là. Son âme se balade quelque part sous vos pieds, dans les murs de l'amphi, sous votre table, pour scruter votre plan de dissertation. Et si vous l'entendez murmurer, ne paniquez pas. C'est juste un fantôme très exigeant.
Merci beaucoup, Clara, pour cette chronique pavée. Maintenant, c'est Elias qui vous a concocté un petit guide des galères quand on est loin de chez soi, dans la chronique correspondance.
La Rochelle,
La Rochelle,
La Rochelle,
le fameux Elias,
La Rochelle.
Être étudiant, c'est plein de bons moments, mais parfois des mauvais. Et quoi de pire que de s'y sentir seul ? Elias vous présente ce soir un petit guide des galères étudiantes quand on est loin de chez soi.
Quand on est étudiant, on vit plein de choses super. On rencontre de belles personnes, plein de nouvelles expériences de vie, comme rejoindre cours d'honneur par exemple. Mais parfois, le quotidien est un peu moins drôle. On peut se sentir seul, dépassé par les événements, ne pas savoir quoi faire. Et pour en avoir discuté autour de moi, c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Il y a ces moments où le social devient un vrai casse-tête. On a envie de rencontrer du monde, de s'intégrer, mais les groupes sont déjà formés. Les emplois du temps ne collent pas, ou juste le manque d'énergie, c'est pas toujours évident. Participer à des associations, des événements étudiants, ou des groupes de discussion sur les réseaux peut vraiment aider à briser la glace. Même un simple message sur un groupe de promo peut ouvrir des portes. Et parfois, il suffit d'oser, de faire le premier pas sans pression, pour débloquer la situation. Côté finances, pour un étudiant, c'est aussi un sacré défi. Entre le loyer, les courses, les transports, les imprévus, gérer un budget quand on a peu ou pas de revenus, ça demande de l'organisation, du courage et souvent quelques sacrifices. Pour ça, utiliser une application de budget peut vous aider à y voir plus clair. Il existe aussi de nombreuses aides, bourses, aides au logement, restaurants universitaires ou distribution alimentaire. Faut pas hésiter à se renseigner auprès du CROUS ou des services sociaux de son établissement et sa ville, parce que dans la plupart des villes étudiantes, il y a pas mal d'actions qui sont régulièrement menées pour venir en aide aux étudiants dans les situations les plus difficiles. Et puis, il y a la gestion du temps. On pense avoir plein de liberté, mais au final, entre les cours, les révisions, les petits boulots, les activités, la vie perso, les journées ne durent que 24 heures et deviennent de vraies courses contre la montre. On a l'impression de toujours courir après quelque chose sans vraiment s'arrêter. On prend pas forcément assez le temps de se reposer, surtout à Paris où la ville va 1000 à l'heure, prendre le temps et parfois le remède à un stress latent ou à des périodes d'angoisse. C'est important de se fixer ses priorités, essayer de se faire des plannings réalistes qui intègrent des moments de pause. Ce sont des petits gestes mais qui changent tout, il existe aussi des ateliers ou des ressources en ligne pour apprendre à mieux s'organiser. La santé mentale est un sujet très actuel et primordial pour s'épanouir dans la vie. Niveau motivation, ça va et puis ça peut repartir aussi vite que c'est venu. Il y a des périodes où tout roule, où on est à fond, et d'autres où même sortir du lit devient un effort. On doute, on remet tout en question, on se demande si on est à la bonne place, si ça en vaut vraiment la peine. On le dit pas assez, mais l'équilibre est fragile. Entre l'anxiété, le stress, la fatigue, parfois même la déprime, ce sont des réalités qu'on minimise trop souvent et pourtant elles méritent d'être prises au sérieux. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide, à dire qu'on va pas bien ou simplement à faire une pause. En parler avec quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un psy, peut vraiment faire toute la différence. Parfois, consulter un professionnel peut vraiment aider à se recentrer. Et en tant qu'étudiant, vous avez le droit à 12 séances de psychologie gratuites grâce au dispositif Santé Psy Étudiant. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler à un professionnel, il existe une plateforme appelée Nightline qui est gratuite, anonyme et confidentielle où vous pouvez vous adresser à des étudiants si vous sentez que vous avez besoin de parler. Vous y avez la possibilité de téléphoner ou d'échanger en ligne de 21h à 2h30 du matin sauf le mardi et le mercredi. L'activité physique est un aspect essentiel d'une bonne hygiène de vie, qu'on néglige parfois faute de temps ou d'envie, alors qu'elle peut justement aider à souffler, à se vider la tête et à retrouver un peu d'énergie et d'estime de soi. Pas besoin de viser les JO. Sortir courir, une séance de yoga à la maison, se déplacer en vélo, c'est déjà beaucoup. Le plus dur, c'est souvent de commencer, mais les bienfaits se font vite ressentir. Bref, être étudiant, c'est un vrai mélange. C'est riche, c'est formateur, mais c'est aussi parfois dur, et c'est ok de le dire. L'important, c'est de ne pas rester seul. Parler, demander de l'aide, prendre soin de soi, c'est peut-être là la vraie clé pour tenir, pour progresser et s'épanouir dans sa vie d'étudiant.
On remercie Elias pour ce message de persévérance, mi-yoga, mi-déprime, mi-développement personnel, on ne sait pas trop. Mais ça nous a fait plaisir et malheureusement, c'est la fin de Cours d'honneur, épisode 17.
Merci de l'avoir suivi, merci à notre invité Samuel Rosenbaum.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Et merci évidemment à toute l'équipe.
On remercie Elias, le fameux, notre correspondant à La Rochelle.
On remercie également Clara, merci beaucoup.
Avec plaisir, j'espère que cette petite histoire du cardinal de Richelieu vous a plu.
Yeah. Oui, très sanglant, très... Ouais. On remercie Alice pour ses bons plans, grâce à toi on va se bourrer la gueule.
Merci la fille, faites attention à vous, n'oubliez pas de prendre un SAM et... ok, l'alcool c'est cool, mais... attention quand même, la santé est grave.
Non, non, l'alcool c'est cool et on s'arrête là, la santé c'est pour plus tard.
L'alcool c'est pas cool.
L'alcool c'est pas cool. Et merci à Jade aussi.
Merci à vous les filles, bonnes vacances ou alors bonne partielle, je sais pas, ça dépend pour qui.
Venez. Ah,
bonne partielle alors.
Merci. On remercie aussi Ellie.
Merci à vous, c'était encore une chouette émission et j'ai envie de vous dire, on se revoit au marathon. Hein.
Ouais, ouais,
clairement.
Exactement.
Hein. On fait aussi des bisous à Lavinia qui nous a fait un super chronique pour les débats.
Ouais. Et on remercie aussi Thomas à son message d'avenir
qui m'a fait pleurer.
Camaraderie.
Ouais.
qui nous donne envie pour la suite. Et merci évidemment à Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
N'oubliez pas, Cours d'honneur passe au mode bimensuel, un épisode toutes les deux semaines.
Et le prochain n'est pas n'importe lequel, 24 heures de radio non-stop.
Avec des émissions spéciales à la clé et de la bonne musique pour vous régaler.
Chers auditeurs, merci d'avoir pris le temps de nous écouter.
Plutôt que la progrès des Solidays.
Ou des podcasts sur la littérature antique.
On a hâte de vous retrouver pour le marathon.
Et en attendant, on se retrouve surtout au pantalon.
Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Bisous, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.